L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
Bonjour Jean-François Rode.
Bonjour Christophe.
Nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Aletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jésuite exégète bien connu des libraires de la Procure et de nos auditeurs. Vous publiez un commentaire de la lettre de Saint Paul aux Romains, votre 19e livre, mais c'est aussi votre 4e commentaire, puisque vous aviez déjà écrit sur l'épître aux Colossiens, aux Éphésiens et aux Philippiens. Et là maintenant, c'est aux Romains, 16 chapitres de cette épître assez singulière, puisque Saint Paul ne connaît pas les Romains et ne connaît pas Rome au moment où il écrit. C'est-à-dire que quand il écrit pour les Éphésiens, quand il écrit pour
les Galates,
il les connaît, il connaît les communautés. Là, il ne connaît pas ni Rome, ni la communauté. Comment s'y prend-il ?
Faut-il que je réponde maintenant ?
Ben oui, 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 oui.
Alors, c'est-à-dire que Saint Paul a écrit aux Romains pour diverses raisons. D'abord parce qu'il pensait aller en Espagne, et donc il était obligé de passer par Rome, Corinthe. Donc, il lui fallait dire aux Romains qu'il était, celui qui avait écrit l'épître aux Galates et qui avait dû provoquer, cette épître avait dû provoquer des réactions assez vives dans les milieux judéo-chrétiens, oui. C'est-à-dire ceux qui, par les chrétiens, étaient d'origine juive, parce que l'épître aux Galates était forte et, avait provoqué ces réactions un peu épidermiques. Alors, il a fallu qu'il refasse sa copie, d'une manière extrêmement différente et tout à fait originale. Alors, donc, pour, mettre de son côté les Romains, mais d'un autre côté, il avait besoin des Romains pour aller en Espagne, et donc il y avait deux raisons tout à fait claires. Et la troisième raison, c'était pour dire aux Romains, on m'a dit que j'étais l'apôtre des nations, de ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Vous êtes Romains, vous n'êtes pas d'origine juive, et donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle j'ai, disons, le droit
alors
de
il confond...
vous envoyer une lettre.
Alors, il confond un peu au début. C'est-à-dire qu'il parle aux Juifs de Rome et il parle aux non-Juifs de Rome qui sont chrétiens, mais on ne les connaît pas. Donc, il va insister sur les circoncis et les incirconcis, et puis en donnant des choses très, très fortes par rapport à la loi. Et puis, au bout d'un moment, on est dans les premiers chapitres, il abandonne tout ça, parce que le plus important, c'est le Christ. Et c'est la grâce. Et là, c'est ces mots très forts, car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour une communauté qui n'existe pas encore en tant que communauté. C'est-à-dire que... Et puis lui, il est peut-être informé, mais il n'en sait rien, il ne les connaît pas personnellement, ces gens-là.
Alors, c'est vrai qu'il ne les connaît pas personnellement, mais il a quand même, il a eu des antennes, hein. Et donc, il connaît des gens qui sont à Rome, qui ont été avec lui, en Asie mineure, à Éphèse, etc.
Parce qu'à la fin de l'Épître, il y a une grande série de salutations,
voilà, de salutations
avec le nom des gens.
Le nom des gens, etc.
Le chapitre 16.
Oui, le chapitre 16.
Qui n'existe pas dans le premier manuscrit.
Qui n'existe pas dans tous les manuscrits. Il y en a qui disent que ça a été rajouté après, etc. C'est vrai, mais ça veut dire qu'en fin de compte, si on a rajouté le chapitre, ça veut dire que Paul connaissait les gens.
Oui.
Et donc, il avait suffisamment d'antennes pour pouvoir s'adresser à eux en connaissance de cause. Donc, il savait qu'il y avait des tensions, qu'il y avait une unité à faire entre ceux qui étaient d'origine juive et ceux qui n'étaient pas, etc., et qu'il fallait absolument intervenir.
Alors, on parle de Paul, mais il faut qu'on parle de vous, Jean-François Rode.
En fait, moi, j'avais envie de poser une question un peu simple, mais un peu fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est important, aujourd'hui, pour nous, de lire l'Épître aux Romains ? Est-ce que c'est important de lire l'Épître aux Romains ?
Alors...
Et pourquoi ?
Alors, c'est important, très important, oui et non. Oui, parce qu'il y a eu l'interprétation de l'Épître aux Romains a été, le lieu d'une confrontation entre l'exégèse chrétienne protestante et catholique.
Ah oui.
Et donc, là, on a eu un effort qui a été fait entre les exégètes, avec de nouveaux paradigmes, de nouvelles méthodes, etc., qui ont fait que l'interprétation est totalement différente. Et donc là, il y a eu une évolution, mais ça, c'est pour nous exégètes.
Oui.
Est-ce que ça a eu des influences sur l'Église en général ? Alors, oui et non, au sens où il y a eu des réunions entre catholiques et protestants lorsque Ratzinger n'était pas encore pape, et il a voulu absolument faire un écrit, n'est-ce pas, pour dire que l'interprétation, n'est-ce pas, aujourd'hui était différente de celle d'avant.
Oui, mais justement, moi j'avais envie qu'on parle quand même de Luther et de sa lecture. C'est la lecture de l'Épître aux Romains, il me semble bien, qui a fait que Luther a rompu avec l'exégèse de son temps et a opposé la justification par la foi à la justification par l'œuvre. On va peut-être y revenir. Il faut expliquer ça peut-être à nos auditeurs, parce que ça a été quand même un événement extraordinairement important et tragique, puisque ça a cassé, enfin, la communauté chrétienne. Ouais. Comment est-ce que Luther a lu l'Épître aux Romains ?
Alors, il a lu l'Épître aux Romains, c'est-à-dire il a lu l'Épître aux Romains à cause de la situation de l'Église de l'époque. Mmh. Bon, l'Église de l'époque était une Église... On dit qu'aujourd'hui, l'Église ne va pas bien, mais ça n'allait pas mieux avant, c'était même pire. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'à l'époque de Luther. Donc, il y avait cette Église qui se disait mystère, corps du Christ, etc., innocente et pure, mais qui, en fin de compte, était faite de pécheurs. Donc, comment faire ça? Alors, on interprète l'Épître aux Romains en disant, à cause de l'Épître aux Galates, justement, parce que c'est dans Galates que... Luther a lu l'Épître aux Galates, non pas dans le grec, mais dans le latin. Et c'est à cause du chapitre 5e de l'Épître aux Galates, au chapitre 5e, verset 17 et suivant, où il a dit, n'est-ce pas, où saint Paul dit aux chrétiens, « Il y a en vous un combat entre l'esprit et la chair. »
Oui.
Bon, et les deux se battent en vous et font que vous êtes complètement paralysés. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Et donc vous êtes... Alors Dieu vous déclare juste, mais c'est une déclaration qui vient d'extérieur, et lui qui le dit forensique, parce qu'elle vient de l'extérieur, mais en fait, intérieurement, vous êtes toujours le même. Vous n'êtes absolument pas changé. Donc la justification, je ne suis pas juste, sinon parce que Dieu me dit que je suis juste, mais je ne suis absolument pas transformé. Et donc l'interprétation de ce verset, qui n'est pas bonne, parce que Luther est tout à fait excusé dans sa lecture de ce verset, a fait qu'après, tout le monde a interprété ça de la même façon. Mmh. Et alors, à partir de ce verset de Galates, on est allé au chapitre 7e de l'Épître aux Romains, où vous avez, n'est-ce pas, la fameuse phrase « Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, et ce que je ne fais pas, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. » Et donc on dit, ben voilà, c'est pour ça que le chrétien est à la fois juste et pécheur.
Et pécheur.
Il reste pécheur fondamentalement, puisqu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire, mais il est déclaré juste parce que Dieu le veut juste. Et donc la justification, elle est dans la parole de Dieu. Mais ça ne change rien sur l'intérieur.
Oui, mais justement, en fait, on s'est battu sur quand même peut-être un malentendu, parce que est-ce qu'on peut vraiment opposer la justification par la foi et la justification par les œuvres? Alors, vous expliquez ça très bien dans ce livre qui donne des clés de lecture là-dessus, puisqu'on parle surtout en fait des œuvres de la loi.
De la loi.
Oui, mais en fait, moi j'ai découvert quand même un peu en lisant votre livre, justement, que lorsque Paul dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, il parle on n'est pas justifié par les œuvres de la loi.
Exactement. Parce que en de la loi
temps,
mosaïque.
Oui, oui. Parce qu'en même temps, voilà, vous montrez bien, l'Épître de Saint-Jacques dit exactement presque l'inverse, en disant une foi qui ne se concrétise pas dans les œuvres, dans la charité, dans l'amour, c'est pas une foi, en fait.
Tout à fait.
Oui, mais on a fait quand même beaucoup de il y a eu beaucoup de problèmes entre, justement, les protestants et les catholiques sur une mauvaise interprétation.
Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'actuellement, catholiques et protestants, on dit la même chose. Ouais. Au niveau exégétique, s'entend. Parce que c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut dire les choses autrement que justification par la foi seule, par les autres. On dit, est-il nécessaire pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ de passer par le judaïsme? Autrement dit,
c'est la grande question, de
se faire circoncire.
Et c'est la grande révolution de saint Paul, ça.
Exactement. Ça, c'est saint Paul. Saint Paul dit non, il n'est pas nécessaire. Le vrai problème, il est là.
De sorte que lorsqu'il va revenir à Jérusalem, il va se foutre sur la gueule avec Saint-Pierre.
Exactement. Exactement.
Parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter, ça.
Avec Jacques, surtout, peut-être.
Oui, oui. Avec Jacques, oui. C'est le problème avec Jacques. Alors, justement, il a été mal interprété, parce que ce qu'il dit, c'est ça. Il dit, n'est-ce pas, si c'est Jésus-Christ qui est mort pour moi et qui fait que, finalement, par sa propre mort, n'est-ce pas, il me rend juste, et donc il me donne l'espérance du salut, la loi n'est plus utile, elle n'est plus nécessaire. Alors il dit simplement, celui qui est né juif, qu'il garde la loi, mais ce n'est pas la loi qui le justifie, ce n'est pas la loi qui le rend juste, c'est la mort du Christ pour lui. Alors il dit pour les juifs, ils restent fidèles à la loi, ils ont resté à la loi, puisqu'ils pensent que c'est ce que Dieu leur a donné pour eux, qu'ils restent fidèles à la loi. Mais d'un moment où on croit en Jésus-Christ, la loi est relativisée, c'est-à-dire que son intention, qui est d'aimer le prochain comme Dieu, reste valable. L'intention de la loi reste valable. Mais elle n'est pas nécessaire. Donc, on a, si vous voulez, la loi, elle reste parole de Dieu pour moi aujourd'hui, qui suis chrétien, mais elle n'est pas un système juridique par lequel je dois passer pour obtenir, disons, la justification, c'est-à-dire pour devenir juste. C'est-à-dire, je ne suis pas juste en devenant, en obéissant à la loi, je suis juste parce que Dieu m'a justifié.
Je disais en introduction qu'il écrivait aux Romains qu'il ne le connaissait pas, ou mal, parce qu'il n'était pas allé à Rome. Est-ce que vous pensez que cette épître aux Romains est la plus pédagogique, c'est-à-dire qui embrasse d'un sens large toute la théologie, parce qu'encore une fois, il ne connaît pas le public. Et donc, c'est ce qui rend cette lettre extrêmement forte, et avec ce souffle littéraire qu'il y a, parce que, justement, il cherche un peu à prendre tous les sujets.
Alors, c'est ça, le vrai problème, il est là. C'est une lettre qui est très, très bien écrite, mais qui est écrite avec des modèles qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui au niveau rhétorique.
Ça, vous l'expliquez
donc,
très bien.
On est obligé d'aider les gens à la lire, parce qu'elle est très, très forte. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves à Rome, quand j'étais à Rome, n'est-ce pas, je leur disais,
vous étiez professeur à l'Institut public.
L'Épître aux Galates, c'est un flop, parce qu'il dit des choses très importantes, mais l'argumentation ne vaut pas, fondamentalement. Alors, il y a des choses qui sont très, très intéressantes, etc. Et donc, ce qui vaut, c'est la manière dont Paul réagit de manière violente à ceux qui voulaient enrôler les gens et les faire devenir juifs. Mais l'Épître aux Galates n'est pas très pédagogique à ce niveau-là. Parce que c'est pas en disant aux gens, vous êtes des imbéciles, qu'on résout les problèmes. C'est pas, oh, Galates, insensé, idiot. Bon, voilà.
Alors, vous êtes bien pédagogique. Parce que ce sujet-là, quand même, je pense qu'il est dans la tête de beaucoup de gens. Et qu'il y a encore toujours une opposition extrêmement forte entre les protestants et nous, enfin, les catholiques, sur cette question-là. Et vous expliquez ça. Les thèses de Paul, de saint Paul et de saint Jacques, semblent donc en tout opposées, et pourtant elles ne le sont pas. L'un et l'autre maintiennent en effet que la foi ne peut pas ne pas porter de fruits. Sinon, pourquoi en chacune de ces lettres, Paul exhorterait-il les croyants à imiter le Seigneur par l'humilité, la patience et l'amour ? Et si la justification accordée gracieusement aux croyants signifie la transformation totale de l'être, elle ne peut que rayonner et se manifester dans et par l'agir. Mais par œuvre, en Romains 4, Paul entend celle qui exige la loi et déclare leur incapacité, celle de la loi donc, à assurer le pardon des fautes, le don de l'Esprit Saint et l'adoption finale. Chez Jacques, en revanche, le substantif « œuvre » ne renvoie pas la loi, mais désigne bien plutôt l'agir par lequel le baptisé, l'homme qui, selon Paul, est déjà gracieusement justifié par Dieu, manifeste la réalité, l'efficience de sa foi et partant de sa justice. Je trouve ça, c'est très clair et c'est très éclairant aujourd'hui encore.
Mais pour moi, le Romain, n'est-ce pas, est difficile pour plusieurs raisons. Parce que même si, comme vous le dites, n'est-ce pas, c'est une lettre qui est au niveau même, disons, non seulement rhétorique, mais au niveau du grec. C'est un excellent grec. Bon, avec toutes les techniques, toutes les figures rhétoriques, n'est-ce pas, de l'époque. Bon. Mais quand vous commencez en disant, n'est-ce pas, comme Paul, « Je ne rougis pas de l'évangile, car il est, etc., etc. » Et puis vous commencez, « Car la colère de Dieu. » Ah, vous dites, « Ah bon ? Ah bon ? » Donc l'évangile appelle la colère. Comment se fait-il qu'il vient de dire que c'est l'Évangile qui nous donne la joie, n'est-ce pas, et l'espérance de la justification, et juste après dit, car la colère de Dieu se manifeste du haut des cieux, n'est-ce pas, contre tous ceux qui...
Oui, c'est tout le début de
la lettre. Alors voilà, on dit, lettre, donc, il faut faire peur aux gens pour leur donner le goût de l'Évangile. Donc, il y a un problème qui est un problème pédagogique aujourd'hui. Comment se fait-il qu'une épître qui est bien construite à l'époque, aujourd'hui, à des lecteurs réfractaires, parce qu'on dit, si on commence par la colère, eh bien non.
Ah, Jean-Noël Aletti, moi j'ai vu ça d'une toute autre manière, c'est-à-dire qu'on est en effet dans la colère, dans le Dieu courroucé de l'Ancien Testament, et une fois qu'il place le Christ et la résurrection, la passion et la résurrection du Christ, à ce moment-là, on est complètement dans la grâce. Mais il fallait qu'il balaye les anciennes idées. Il fallait qu'il balaye les anciennes idées, et il le fait dans les deux premiers chapitres.
Exactement.
Et ensuite, il place chacun par rapport à cette histoire et par rapport à la grâce.
Exactement.
Et avec cette révolution de dire on ne se connaît pas, mais on est tous sur le même chemin.
Oui, tout à fait. Parce que là, il y a un gros problème. Moi, je me souviens d'avoir des amis, n'est-ce pas, aux États-Unis, les presbytériens, l'église presbytérienne, donc qui n'est pas l'église épiscopale. Alors, l'église presbytérienne a comme théorie que Jésus est le paratonnerre qui a reçu la colère de Dieu, donc il a explosé à notre place. Et donc, là, il y a eu la colère. Mais comme lui, il a tout pris, on est tranquille maintenant. Et donc, on interprète saint Paul à partir de cette histoire de la colère, n'est-ce pas, d'un Dieu qui est courroucé, et qui veut absolument, n'est-ce pas, nous punir, et qui a trouvé en son fils le paratonnerre idéal pour recevoir toute l'électricité, n'est-ce pas, céleste. Alors là, évidemment, vous avez des problèmes, là. Parce que je pense, présenter comme ça le christianisme, c'est un petit peu embêtant, non seulement pour nous chrétiens, mais pour Dieu lui-même.
Ah oui, bien sûr. Parce que si j'ai bien compris, il commence par dire, de toute façon, juif et non-juif, on est de toute façon dans la même situation.
Exactement.
Avant le salut donné par Jésus.
Voilà.
Alors, éventuellement, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a un passage compliqué autour du péché originel. Tout le monde a péché en Adam et tout le monde est justifié en Christ. Il y a un passage compliqué dans Romains et qui n'a pas toujours été aussi bien interprété.
Il est compliqué ou il est bien balancé?
Il est bien balancé, il n'est pas si facile que ça.
Mais aujourd'hui, il n'est pas bien. Aujourd'hui, il ne parle pas aux gens. Parce que, et d'ailleurs, le judaïsme lui-même, n'est-ce pas, a des problèmes avec ça, puisque vous avez des tas de, disons, de traditions juives qui disent, n'est-ce pas, c'est vrai qu'Abraham, n'est-ce pas, c'est vrai qu'Adam et Ève ont péché, mais il y a Abraham qui est arrivé. Et c'est grâce à Abraham que le monde n'est plus le même.
Oui, absolument.
Parce qu'Abraham a cru.
Oui.
Donc, c'est plus Jésus-Christ. Et donc, on dit, alors,
pourquoi... Mais Saint-Paul le dit,
Oui, oui, tout à fait.
Saint-Paul le dit dans cette lettre aux Romains.
Voilà.
Et alors, moi,
mais c'est pas facile, facile de comprendre que tous les hommes ont péché en Adam.
Exactement.
C'est un peu compliqué,
Ça, c'est Augustin. Mais Augustin a les mêmes problèmes que Luther, c'est-à-dire, ou plutôt Luther a les mêmes problèmes que Augustin, ils ont lu le latin, eux. Donc, enco, donc c'est en lui, en qui.
Donc,
et dit, c'est Adam. En fait, c'est pas du tout Adam. Il y a rien à voir avec Adam. Donc, c'est pas,
c'est la
situation. Parce que le gros problème, c'est suivant. Était le suivant, n'est-ce pas? C'est comment se fait-il que pour un péché commis par des gens qui étaient un peu naïfs et ingénus, n'est-ce pas, toute l'humanité, n'est-ce pas, qui a suivi, a eu à porter le poids d'un péché qui n'était pas le sien.
Oui, voilà.
Et donc c'est ça le gros problème. Alors saint Paul n'est pas idiot, il a voulu ça, et donc il a transformé l'histoire. Mais aujourd'hui, à la manière dont c'est écrit, les gens ne comprennent plus l'histoire. Voilà. Et donc mon problème, moi, ça a été de dire non, saint Paul part du Christ, et en fait, c'est à partir du Christ qu'il interprète toute l'histoire qui a précédé. Donc c'est pas en partant d'Adam qu'on comprend le Christ, mais c'est à partir du Christ.
C'est très fondamental.
Voilà.
Ça.
Voilà.
C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, ça.
Ah, oui, c'est très important. C'est très, très important. Seulement,
Adam est une figure que l'on peut appeler origine. Si vous mettez le mot origine...
C'est un peu comme en mathématiques, on transpose, on a un point, on a des points, puis on va projeter sur un point en disant c'est de là que vient l'histoire.
Mais
en fait,
c'est
faux, c'est à partir de ce que nous sommes, nous.
Mais oui, absolument.
On peut interpréter, on refait...
Absolument, parce que sinon on est dans une espèce d'imagerie qui est culpabilisante et qui est un poids que porte l'humanité avec un fardeau.
Et on vous
remet un coup de sueur en disant il faut que chacun porte sa croix.
Vous vous rendez compte un peu de la religion
que c'est.
Alors, exactement, le pauvre Adam et la pauvre Ève, ça marche pas.
Et ce que je trouve étonnant dans la lettre aux Romains et dans votre commentaire, Jean-Noël Aletti, qui est publié aux éditions Jésuites, ce que je trouve étonnant, justement, c'est cette façon que Paul a de balayer pour ouvrir.
Ouais, ouais.
Et cette ouverture permanente, je ne crois pas qu'on l'ait dans les autres lettres.
Non.
C'est bien la singularité de cette lettre.
En fait, on ne peut pas dire que ce soit vraiment... C'est à la moitié lettre et traité, déjà.
Oui.
C'est une réflexion à la puissance 2 sur, à la fois, l'Évangile, sur les conséquences de l'Évangile pour toute l'humanité, pour le judaïsme, pour les Juifs. Alors, c'est pour ça qu'on a Romains 9, 11. pour les juifs, pour les non-juifs, pour tout le monde, la réconciliation, etc. La manière de vivre aussi en chrétien, en dans communauté. L'unité, sans exclusion, dans la tolérance, etc. Non,
il y a un thème très important, justement. Moi, je voulais qu'on y arrive peut-être aussi, si on a encore deux minutes, sur justement, qu'est-ce qui se passe pour les juifs aujourd'hui ? Quel est le destin d'Israël après le Christ ? Qu'est-ce qui va se passer pour les Juifs aujourd'hui ? Il y a toute une démarche de Paul qui annonce que les Juifs vont être eux aussi sauvés. Comment il explique ça ?
Alors, c'est une information qui n'est pas tout à fait complète parce qu'il s'adresse, en Romains 9:11, il s'adresse à ceux qui n'étaient pas d'origine juive, en leur disant ne croyez pas que les juifs ont été exclus.
Voilà.
Vous croyez que vous les avez remplacés.
Il y a les oliviers, l'histoire d'Olivier, de l'olivier franc et du greffon.
Donc, alors, il leur dit attention, doucement les basses, ne croyez pas que. Alors, mais c'est pour lui, le judaïsme, à la différence du christianisme, nous insistons sur un Dieu qui sauve. Le judaïsme a pour fonction, grâce à la loi, de faire comprendre comment Dieu veut l'humanité de notre humanité. C'est-à-dire, par sa loi, Dieu veut rendre notre humanité plus humaine. Parce que sinon, l'homme est un nous pour l'homme. Et donc, cette loi, pour le juif, elle est ce qui permet au monde de comprendre que Dieu, finalement, d'abord, ce qu'est Dieu, et comment Dieu se présente comme soucieux d'une humanité qui, si elle est laissée à elle-même, n'est-ce pas, va au désastre.
Jean-Noël Aletti, après avoir écrit sur l'Épître aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens et maintenant aux Romains, votre prochain livre, c'est l'Épître aux Galates ?
Non, c'est sur les Évangiles. C'est un livre d'introduction à la narrativité, les modèles de narrativité, la manière dont les Évangiles et les Actes des Apôtres écrivent. Et donc, c'est passionnant.
Bon, oui,
ça va l'être, sûrement.
Eh bien, nous filerons à la procure pour voler votre livre sur les tables. Cette semaine,
non, il n'est pas question de voler.
Cette semaine, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur les tables de la procure ?
Je voudrais signaler une parution tout à fait importante, Histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, c'est Albin Michel. C'est une encyclopédie, comme sait très bien les faire, Albin Michel. Je vais faire un peu d'éloge. Ce savoir-faire d'Albin Michel sur les différentes encyclopédies est formidable, parce que la réunion, en gros, de 100, 150 quelquefois, spécialistes internationaux. Donc on va vraiment chercher, sur chaque sujet, le spécialiste, le meilleur spécialiste. Mais c'est toujours pris dans un projet bien réfléchi à l'avance. On ne va pas simplement dire, bon, écrivez-moi n'importe quoi. Enfin, on ne donne pas simplement toute une liberté à l'auteur. On lui dit, voilà le schéma général, voilà le projet. Et est-ce que vous voulez bien remplir, apporter votre compétence sur ce sujet ? Donc, en fait, le but de l'histoire juive de la France, c'est un peu curieux de dire ça. En fait, pour résumer, c'est de déconstruire le stéréotype que les Juifs seraient toujours en fait d'éternels étrangers en France, ou une minorité halogène. Alors qu'en fait, quand on regarde l'histoire, ils sont là depuis toujours, ils sont même là avant les Francs. Il y avait des communautés juives en Gaule avant les Francs. Et il y a eu toujours une intervention, les Juifs ont toujours été partie prenante de l'histoire de France. Et inversement, la France a joué un peu un rôle aussi sur le judaïsme. C'est, par exemple, on cite toujours Rashi, qui est un grand rabbin de Troyes, 11e siècle. Il est aujourd'hui encore considéré comme le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud. Et à Jérusalem et à New York, on l'appelle le français. Parce que y a vraiment... Alors, le livre, je ne peux pas résumer, mais c'est un vrai beau projet pour montrer que on n'est pas... les Juifs sont partie prenante de la construction de
On va le montrer à l'écran.
Ça s'appelle l'Histoire juive de la France.
Voilà.
Et c'est chez Albin Michel. C'est une encyclopédie formidable.
Et vous allez nous parler maintenant d'un autre jésuite.
Alors, un autre jésuite, Christophe Théobald.
Il nous reste une trentaine de secondes.
Voilà. En deux secondes. Le titre dit beaucoup de son projet. Son titre, c'est « Un nouveau concile qui ne dit pas son nom ?» Donc, il parle du synode.
Ben oui.
Et il dit, en fait... Bon, oui, c'est un concile qui ne dit pas son nom. On peut supprimer le point d'interrogation. En fait, en gros, Vatican I a parlé du pape, Vatican II a mis en place les évêques, et là, le synode, c'est l'essai de mettre en place le peuple de Dieu lui-même dans une démarche de synodalité. C'est un livre très éclairant, et Théobald est quelquefois pas facile toujours à lire, mais là, je trouve qu'il est très pédagogue aussi. Christophe Théobald, un nouveau concile qui ne dit pas son nom, et c'est chez Salvatore.
Et c'est encore un jésuite.
C'est encore un jésuite. Bon, j'imagine que vous en parlez beaucoup en communauté.
Oui.
C'est pas de ma faute. Et vous qui connaissez très bien les arcanes romaines, puisque vous avez été à l'Académie pontificale de théologie et de la faculté, et vous êtes maintenant à la faculté jésuite de Paris au Centre Sèvres. Vous étiez membre de la commission biblique pontificale de 2002 à 2013, donc vous connaissez tout ça très bien. Malheureusement, il y a le générique qui passe dans les oreilles, et donc c'est le moment où je dois vous remercier d'être venu, de redire qu'il faut lire votre livre qui est le commentaire de la lettre de Saint Paul aux Romains. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi. Alors, nous irons au théâtre. On va retrouver Jean-Luc Moreau, le metteur en scène, et Marion Lamère, la comédienne, qui joue Panique en coulisses au Théâtre des Variétés. Alors ça, je vous promets que ça décoiffe. C'est une pièce formidable. Et nous en parlerons demain. Prenez soin de vous, des autres. Je vous embrasse.